L'entretien, Tiffaine Cellier.
Fou, taré, bizarre, schizo, mytho, parano, barré, perché, c'est souvent par ces qualificatifs que sont affublés ceux qui souffrent de maladies psychiques et plus particulièrement de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie psychique qui touche près de 600 000 Français, soit 1% de la société. La difficulté d'accès aux soins, la stigmatisation, la discrimination, l'exclusion, le manque de moyens sont une réalité pour les malades psychiques et leurs familles. Pour cet entretien, je reçois Brigitte Petit. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne. Vous avez une expérience de 42 ans dans des services de psychiatrie. Vous êtes également marraine d'un GEM, le groupe d'entraide mutuelle. Votre ouvrage « Pour une approche plurielle de la schizophrénie du soin au social » est paru aux éditions Descartes cet été. C'est un livre qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux familles, aux usagers et plus largement au public parce que vous le dites, la santé mentale est l'affaire de tous. Alors Brigitte Petit, on est ensemble pour une demi-heure, on va se pencher sur ce qu'est la schizophrénie, ce qu'elle recouvre comme réalité. On parlera aussi des problématiques liées au diagnostic et aux soins qui sont apportés aux malades et enfin de leur place dans la société. Pour mieux comprendre de quoi on parle, revenons à cette définition de la schizophrénie, en grec « schizo », qui signifie le fractionnement, et « phrénie », l'esprit. On doit ce terme de schizophrénie au psychiatre zurichois Eugène Bleuler, qui, en fait, en 1908, remplacera le terme de « démence précoce » par schizophrénie. Selon l'INSERM, la schizophrénie est une pathologie psychiatrique complexe qui se traduit schématiquement par une perception perturbée de la réalité. Brigitte Petit, la schizophrénie est-elle une maladie ou une manière d'être, une manière singulière d'être au monde? C'est la question qui a conduit l'écriture de votre ouvrage. Pourquoi poser cette question?
Je pose cette question par rapport à tous ces patients que j'ai rencontrés au cours de ma carrière. Et puis également, j'ai très vite été saisie, quand je suis rentrée dans les services de psychiatrie, par l'attitude des soignants, qui avaient une attitude plutôt à distance du patient, prenant en compte plutôt ses problèmes et pas sa personne ou sa singularité. C'est-à-dire la singularité, c'est comment est le sujet, qui il est, de quoi il est fait, son histoire, et également comment il se projette dans l'avenir ou comment il gère ses problèmes également. Donc j'ai été un peu saisie par cette particularité, c'est-à-dire comme s'il y avait une sorte d'omniprésence, d'impérialisme entre guillemets médical. Hein, on ne voit que le malade. Et ça m'a vraiment choquée. Donc je me suis dit, peut-être faut-il voir un peu le patient autrement. Et donc je me suis intéressée d'emblée au sujet. Je crois que c'est propre aussi à une sorte de sensibilité que j'ai. C'est-à-dire quand je rentre en contact avec quelqu'un, ce qui m'intéresse c'est qui il est. C'est avant tout le sujet. Après, on peut percevoir des choses, on peut percevoir une sorte d'étrangeté, on peut percevoir un discours qui tient pas vraiment compte de la réalité. Mais néanmoins, le sujet est toujours là, il est toujours présent. Or, en psychiatrie, on voit surtout les troubles et la maladie, parce que on a fait de la schizophrénie une maladie, c'est-à-dire cette manière singulière d'être au monde, qu'on peut appeler la schizophrénie, on en a fait une maladie. Alors, il y a pour ma part une approche psychodynamique à laquelle j'ai été formée hein, déjà, qui me convenait assez bien, c'est-à-dire que cette approche psychodynamique, elle est phénoménologique, psychanalytique également, qui est de considérer avant tout quelqu'un à travers sa structure de personnalité. On a une structure de personnalité d'ordre psychotique ou bien névrotique, hein, ou normopathe entre guillemets, si on veut un peu caricaturer. Et donc, on a une structure qui se développe dès le début de la petite enfance jusqu'à l'adolescence et qui, après, constitue un peu le fondement de ce qu'on va être dans la vie, même si cette personnalité, elle évolue. Donc, on a une personnalité, une structure psychotique et on peut avoir cette structure psychotique et avoir une vie sociale normal, on pourrait dire, avec des particularités, mais qui est propre à chacun, hein, c'est-à-dire parfois une tendance un peu à pas être expansif, un repli ou des choses comme ça. Mais ce sont des gens qui fonctionnent bien, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont un travail, une vie sociale. Et puis à un moment donné, et c'est surtout à l'adolescence en effet que ça se produit, à la fin de l'adolescence, il y a comme un obstacle dans la vie de quelqu'un qui a une structure psychotique et il va, ce que j'appelle, décompenser.
Alors justement, vous avez parlé de la relation entre patient et soignant, on y reviendra, mais la schizophrénie, c'est une maladie qui survient la plupart du temps avant 25 ans.
Oui, tout à fait. Ça intervient, c'est vrai, c'est autour de 20 ans en général, tout simplement parce que ça correspond à l'âge où on rentre dans la vie adulte. Et là, il y a comme un basculement qui pose problème. Il y a quelque chose, il y a eu des remaniements à l'adolescence qui n'ont peut-être pas forcément apporté suffisamment de confiance intérieure et de sécurité, surtout d'envie d'aller de l'avant. Hein, parce que ce qui nous porte quand même, c'est le désir. C'est le désir d'avancer, de faire des choses, de concrétiser des objectifs, etc. De vivre voilà, une vie amoureuse, un travail, une passion ou des choses comme ça. Et donc là, il y a quelque chose, un obstacle. C'est-à-dire, la personne, face à cet obstacle, se brise en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a un chaos intérieur parce que les ressources qu'elle a à l'intérieur d'elle ne sont plus suffisantes.
Mais c'est un peu culpabilisant ce que vous dites. Ça voudrait dire que tout n'a pas été donné pendant l'enfance ?
Ah, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire que le développement au cours de l'enfance, parce que c'est souvent, je veux dire, il y a, comment dire, un procès d'intention qui ont été faits aux parents qui est abominable, dont je parle dans mon livre.
Tout à fait.
Et que j'ai connu dans ma carrière pour avoir aussi accompagné les familles pendant de nombreuses années, hein. Non, c'est tout simplement que la personnalité, mais c'est comme, je veux dire, ça me paraît aussi une évidence, elle se construit au fil du temps, dès la naissance. On apprend le monde, on apprend à être propre, on apprend à être sociable, on apprend à aller à l'école, on apprend la vie sociale, on a toute une série d'apprentissages comme ça, qui va toujours mettre en tension ce que le sujet est capable de mobiliser en lui, ses ressources, est-ce que l'environnement va exiger de lui, ou ce qu'il peut trouver dans cet environnement, en termes de sécurité, et de toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'un enfant, par exemple, qui a beaucoup de besoins de réassurance, pourquoi ça, question, qui a besoin de réassurance et qui est dans un milieu familial qui, par exemple, n'est pas très présent, pas très étayant, ça risque de poser problème. C'est-à-dire, ça crée à l'intérieur de l'enfant des zones d'ombre, des petits trous dans lesquels il peut tomber, mais enfin, bon, il avance quand même, hein. Par contre, ce même enfant, s'il avait eu moins de besoins de réassurance, de présence de l'adulte, avec des adultes moins présents, ça serait passé. C'est toujours cette adéquation entre l'environnement et ce que l'enfant, les besoins de l'enfant, en quelque sorte.
Oui, et selon l'INSERM, le développement de la schizophrénie résulterait d'une interaction entre gènes et environnement. Mais il y a d'autres facteurs de risque environnementaux. On parle du cannabis, il y a d'autres...
Oui, alors ça, je dirais que le cannabis, bon, on peut pas dire que les bébés prennent du cannabis. Donc le cannabis, ça intervient
dans le développement.
De l'adolescence là, c'est souvent au niveau de l'adolescence. Là, je dirais que ce sont des facilitateurs de chaos. Hein, c'est pas la prise de cannabis qui va déclencher une schizophrénie. Elle va la déclencher, si vous voulez, mais parce que tout à l'intérieur était déjà là. Il y avait une fragilité. Il y a des tas de gens qui fument du cannabis, je ne veux pas faire la promotion du cannabis. Il y a des tas de gens qui prennent du cannabis et qui ne déclenchent pas une psychose. Donc on peut dire que c'est un facteur favorisant, tout comme si vous avez une structure psychotique, vous avez des conditions extrêmes, un environnement terrible, une guerre, n'importe quoi, vous allez pouvoir déclencher une psychose à ce moment-là, c'est-à-dire décompenser, parce qu'il y a quand même une sorte de fragilité, comme si les fondations avaient quelques fragilités. Alors il ne faut pas trop de séisme, il ne faut pas trop... de choses comme ça, d'ébranlement.
Alors revenons sur ce thème de décompensation. Vous écrivez « La schizophrénie est indéniablement une maladie psychique qui ne correspond qu'à la phase active de la décompensation ». Alors qu'est-ce que c'est que la décompensation et plus largement la psychose décompensée ?
Eh bien, la psychose décompensée, c'est justement ce moment où le sujet bascule dans le chaos. Il est face à un obstacle. Alors, De l'extérieur, on peut se dire, bah, c'est pas grand-chose. L'exemple type que j'ai souvent rencontré dans ma carrière, un adolescent qui vit chez ses parents, voilà, et puis qui doit quitter la ville pour faire 300 km pour suivre des études. Et là, il va se retrouver dans une chambre d'étudiant, ne connaissant pas grand monde. Il va commencer à aller moins bien. Et puis, au fil des semaines, des mois, il peut déclencher à ce moment-là une décompensation. C'est-à-dire, il y a un chaos. À un moment donné, il est perdu. Il y a quelque chose qui n'est plus possible pour lui d'assumer. Il y a des angoisses qui surgissent. La peur de tout, la peur de l'autre, la peur de l'échec. Et face à ce chaos, eh bien, le sujet va essayer de trouver des explications. Et ça, c'est profondément humain. C'est pas dû à la maladie. Chaque fois que vous avez un truc bizarre, vous vous tournez, vous essayez de comprendre ce qui se passe, quoi. Eh bien, la personne va faire exactement pareil. Elle va essayer de trouver parce que l'angoisse est une peur sans objet. Vaut mieux essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui nous fait peur. Et on va, les sujets vont tordre un peu la réalité et finir par dire, ben, en fin de compte, j'ai peur de mourir parce que, je sais pas, le KGB, la CIA m'en veulent, etc. Et parce que c'est comme s'ils pouvaient enfin désigner, mais à travers un délire, la cause de son risque de mourir.
La décompensation, c'est une crise aiguë.
C'est une crise aiguë, tout à fait. C'est le moment où on est hospitalisé, d'ailleurs.
Et plus loin, vous précisez un sujet peut être schizophrène sans être malade. Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, c'est justement quelqu'un peut avoir une structure psychotique d'ordre organisée de façon schizophrénique, si on veut, c'est-à-dire avec un repli, une sensibilité, une sorte de froideur un peu dans les relations. Il peut être schizophrène, entre guillemets, sans être malade. C'est-à-dire, il n'a pas déclenché ce chaos, il n'a pas
Cette
déclenché cette
décompensation.
décompensation, il ne l'a pas déclenché. Donc voilà.
On va parler justement de cette pathologie, de ces histoires de diagnostics qui sont pas faciles à établir juste après. Je suis avec Brigitte Petit, psychologue clinicienne, pour son ouvrage Pour une approche plurielle de la schizophrénie, du soin au social, paru aux éditions Descartes. Alors, la schizophrénie est une pathologie qui n'apparaît pas brutalement, hein. Vous écrivez, je cite, à bien y regarder, le ciel s'était déjà assombri depuis plusieurs semaines ou quelques mois. Souvent, le diagnostic est posé alors que la maladie progresse depuis plusieurs années. Il faut du temps et du recul pour poser ce diagnostic de schizophrénie.
Oui, tout à fait, parce que, en fin de compte, quand ce moment de décompensation, on sait qu'on est dans le registre de la psychose, parce qu'il y a une telle perte de la réalité qu'on sait qu'on est dans le domaine de la psychose, mais on ne sait pas où. On ne sait pas si c'est de la schizophrénie, peut-être des troubles bipolaires, peut-être autre chose, peut-être ce qu'on appelle, et ça c'est une spécificité française, la bouffée délirante, c'est-à-dire quelqu'un qui va se mettre à délirer, à être halluciné pendant 3 semaines, 1 mois, et puis qui va se remettre assez rapidement, reprendre le cours de sa vie et qui ne sera jamais réhospitalisé, qui prendra un traitement pendant 1 an ou 2, qui va l'arrêter. Donc on ne sait pas, quand on déclenche une psychose, où on met les pieds. On peut en avoir un aperçu. Par exemple, si on sait dans l'anamnèse, quand les parents parlent, qu'il a toujours eu tendance à être replié sur lui-même, timide, voilà, pas très allant. Enfin, on peut avoir comme ça des soupçons, mais on ne peut pas le dire. Donc, il faut du temps d'observation. Il faut voir également comment le patient réagit au traitement. Ça aussi, c'est un indice de diagnostic.
On peut poser le traitement avant d'avoir le diagnostic.
Oui, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient en crise psychotique, on donne des antipsychotiques de toute façon. C'est pas des traitements anti-schizophréniques, c'est un traitement antipsychotique. Donc il faut en général 6 mois entre le moment de la décompensation et le moment du diagnostic pour dire que c'est une schizophrénie.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut poser ce diagnostic de schizophrénie?
Eh bien, l'observation, justement, la rencontre avec le sujet, prendre le temps de voir quels sont ses problèmes, comment il réagit dans le service, ce que disent ses parents, son entourage ou son conjoint. Donc, on voit également en entretien individuel, et ça, les entretiens individuels sont extrêmement importants. Ça, là, on n'est pas, à mon avis, dans le cadre de thérapie cognitivo-comportementale, on est plutôt dans une approche, plutôt, je dirais, de mise en confiance, une approche psychodynamique quand même, dans la mesure où on va essayer d'entrevoir l'univers interne et psychique du patient. On va essayer à travers des discussions, des choses comme ça, on va voir comment c'est organisé à l'intérieur de lui. Alors, je prends souvent l'exemple d'une maison. Ben, il nous invite dans sa maison, et bien il y a une pièce principale, on rentre, on voit. C'est un peu le bazar là, c'est, tiens là c'est organisé comme ça, ben, tiens il aime ça, ça il aime pas, tiens il n'y a pas de truc comme ça. Et puis il y a une pièce qui est entrouverte, donc on voit à peu près, mais la porte n'est pas poussée. Surtout ne pas la pousser, pas faire violence au patient. S'il ne nous dit pas d'entrer, on ne rentre pas. Il y a des portes fermées. Ah, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais on essaye de voir dans cette salle un peu, on peut le dire, comme quand vous arrivez chez quelqu'un, bah tiens, tu as une cheminée, tu fais un feu de temps en temps, etc. Eh bien là, on va être voir un peu comment ça se passe. Ben oui, la difficulté avec les autres, bon oui, ça faisait longtemps que c'était comme ça. Comment ça s'est aggravé? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc on essaie de voir, et là, on peut dégager en tant que clinicien des indices, c'est-à-dire des angoisses. Est-ce qu'il a des angoisses de mourir, des angoisses de disparition? Est-ce qu'il a des mécanismes, ce qu'on appelle des mécanismes de défense, c'est-à-dire des manières de se défendre de l'angoisse ou de l'autre, de telle manière, en le mettant à distance ou au contraire en étant un petit peu un peu ce qu'on appelle projectif, un peu persécuté, enfin, quel est son type de relation à l'autre? Déjà, ça, c'est des indices de diagnostic.
Alors, une fois le diagnostic posé, finalement, le plus compliqué réside dans l'adhésion du patient à son traitement médicamenteux. D'après l'INSERM, près de la moitié des patients interrompent leur traitement dans la première année parce qu'ils ne reconnaissent pas leurs troubles ou à cause des effets indésirables. Je vous propose d'écouter Thomas, qui a été diagnostiqué schizophrène il y a un peu plus de 20 ans et qui a mis près de 10 ans à accepter son traitement. On l'écoute.
Le jour où j'ai accepté de prendre un traitement, c'est le jour où un psychiatre m'a dit « Tu vas pouvoir prendre ce traitement pour t'aider parce que c'est en toi que tu vas retrouver la force de t'en sortir. » Et le traitement n'est là que pour comme support, pour t'aider. Et c'est ça qui a déclenché en fait l'envie de me soigner et de faire confiance au corps médical, parce que il avait réussi à me faire comprendre que je trouverais la force en moi-même et que ce produit allait m'aider à trouver la force en moi-même.
Cette relation avec le psychiatre, Brigitte Petit, c'est la clé d'un traitement suivi?
Alors cette relation avec un psychiatre, ça peut être aussi avec un psychologue, ça peut être aussi un infirmier parfois.
Avec le corps médical.
Le corps médical. Les psychologues sont pas tout à fait dans le corps médical. Hein. C'est pas des paramédicaux, mais c'est pas grave. et donc, en effet, c'est au cours de ces entretiens où on prend le temps. C'est-à-dire, j'ai beaucoup apprécié ce que disait ce psychiatre en disant le traitement, c'est un support, mais c'est toi qui vas chercher tes ressources à l'intérieur pour t'en sortir. Et t'en sortir, c'est quoi? Ben, c'est poursuivre d'abord la trajectoire de son existence. C'est ça le plus important. Donc souvent, les patients qui arrêtent leur traitement sont en effet des patients qui ne se reconnaissent pas malades. Ils ne se reconnaissent pas malades, mais ce n'est pas évident de se reconnaître malade. C'est pas une maladie, c'est une maladie qui est tellement liée à la personnalité qu'en avoir conscience est quand même un peu compliqué. Donc je crois que les patients qui arrêtent leur traitement, bah, parfois, quand on a 18 ans, 19 ans, on a besoin de faire cette expérience, d'arrêter son traitement. On va probablement être réhospitalisé parce qu'en nouveau, à nouveau en crise, mais c'est pas grave d'être hospitalisé deux fois, trois fois. C'est peut-être le temps dont le patient a besoin pour prendre conscience qu'il y a un problème. Et une fois qu'il est d'accord sur le fait qu'il y a un problème, eh ben il va essayer de trouver c'est quoi le problème.
Et c'est pour ça que vous dites que parmi les maladies psychiques, la schizophrénie est probablement la seule qui, dans certaines de ses formes, résiste aux soins. C'est ce que vous voulez dire par là?
Alors, je dirais qu'elle résiste aux soins. Oui, on peut dire que cette annonce de diagnostic aussi, et si le patient ne l'accepte pas. Et alors, faut-il qu'il l'accepte? Moi, je sais que les patients que je rencontre qui veulent pas de leur diagnostic de schizophrénie, moi, ça me gêne pas. Du moment qu'on se met d'accord sur un problème. Par exemple, j'ai des problèmes avec les autres m'en veulent quand je suis avec eux. Voilà. Moi, ça me suffit, ça. À partir de là, on peut en parler. Je commence à essayer de comprendre pourquoi les autres sont comme ça. Donc, on commence, pourquoi ils sont comme ça et comment vous comprenez ça et qu'est-ce qui se passe pour eux, etc. Et à un moment donné, au bout d'un certain temps, le patient va dire, oui, mais enfin, il faut les comprendre aussi parce que moi, je suis pas toujours facile. Et paf, là, on arrive à quelque chose où là, il y a, comment dire, une prise en compte de lui-même. Mais il peut le faire. Il peut faire ce moment-là. Il peut dire, oui, mais peut-être que moi aussi, j'y suis pour quelque chose, quand il est dans une relation de confiance avec le thérapeute.
Donc, en plus de la relation de confiance, en fait, les patients ont besoin d'un traitement à base de psychotropes, mais pas seulement.
Ah, pas seulement. Non, absolument pas. Je pense que c'est pas suffisant. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas que le traitement psychotrope, il y a aussi les remédiations cognitives, il y a des ateliers de réhabilitation, il y a toutes ces choses-là qui sont très précieuses, dont les patients ne profitent pas tout le temps, hein, faute de moyens. Par exemple, les ateliers de remédiation cognitive, ça devrait être 2 ateliers ou 3 par semaine, mais il y a tellement de monde que c'est pas possible. Donc il y a aussi... Remédiation cognitive. Voilà.
Donc, qui veut dire
La remédiation cognitive, c'est essayer de voir les problèmes, parce qu'on part du principe que les patients ont des troubles de la relation, des troubles cognitifs. Donc, ils ont des troubles cognitifs. Donc, comme en neuro, on va essayer de rééduquer les troubles cognitifs. Pour ma part, j'estime que les troubles cognitifs, c'est assez curieux. Il y a quelque chose qui me trouble tout le temps parce que les troubles cognitifs, par exemple, on parle du manque d'attention. Il y aura un défaut d'attention chez le patient schizophrène. Mais quand on regarde bien de près, est-ce que c'est vraiment des troubles de l'attention? Imaginons que ce soit parce qu'intérieurement, il n'est pas disponible, qu'il est angoissé, qu'il n'est pas bien. Prenez l'exemple, vous êtes dans un cinéma, il y a le feu qui se déclenche. Vous partez en courant, bien sûr, pour fuir le feu. Vous traversez plein de salles, puis vous arrivez dehors. Puis il y a quelqu'un qui vous dit, vous pouvez me dire la couleur de la moquette, et puis vous pouvez me dire la couleur des murs, des pièces que vous avez traversées. Bien sûr que non. Parce que vous n'êtes pas disponible. Alors, on pourrait dire, quand vous êtes sur le trottoir, en sortant, vous avez des troubles de l'attention, par exemple. Hein? Donc, c'est très relatif. Donc, je dirais, par rapport si on revient au traitement qui n'est pas suffisant, parce que c'était un peu la première question, je pense qu'il faut quand même un accompagnement. Alors, des remédiations cognitives, oui, pourquoi pas, parce que de toute façon, c'est un travail avec le patient. Mais il faut aussi prendre en compte ce qu'on appelle la dynamique interne du patient, c'est-à-dire son univers intérieur. Comment ça se passe, cette relation de confiance où on voit les gens régulièrement. Ça peut être dans un premier temps, toutes les semaines, tous les 15 jours, après tous les mois. Mais c'est très important de voir un peu comment ils évoluent dans leur quotidien, être un petit peu comme un sonar qui est là pour voir si quelque chose n'est pas un problème dont il n'aurait pas conscience. Mais nous, on le sait puisqu'on le connaît. Donc, cette psychothérapie, elle permet d'avancer aussi, un peu comme je vous disais tout à l'heure, le patient qui me dit « oui, mais enfin, il n'y a pas que, moi aussi, je ne suis pas facile ». Ça, c'est de la psychothérapie, ça.
Alors, l'avenir pour les sujets après une décompensation psychotique dépend en partie des soins apportés par les soignants, mais aussi du regard que l'on porte sur eux, de la place qu'on leur laisse dans la société. C'est ce dont on va parler tout de suite. Je suis avec Brigitte Petit, psychologue clinicienne, pour son ouvrage « Pour une approche plurielle de la schizophrénie, du soin au social » paru aux éditions Descartes. Alors, j'aimerais d'abord qu'on parle des familles, Brigitte Petit. Vous les avez accompagnées dans votre parcours, des familles qui sont déjà meurtries par le cataclysme d'un enfant, un frère, un parent malade psychique et parfois mal accueillis par le monde psychiatrique. Est-ce qu'aujourd'hui, la famille est mieux intégrée dans le parcours de soins?
Alors, je dirais pas qu'elle est mieux intégrée dans le parcours de soins. Elle l'est dans certains endroits, mais c'est loin d'être la majorité. Je dirais qu'on prend en compte la famille, déjà. On l'accueille, ce qui n'était même pas le cas avant. Donc, on accueille la famille peut-être plus facilement. Ceci dit, on a encore beaucoup de progrès à faire, c'est-à-dire pour qu'ils deviennent des partenaires de soins. Je dis toujours que la famille est très importante dans la mesure où elle fait partie de l'environnement du patient. Or, on a 2 leviers pour aider un patient à sortir de sa décompensation. C'est ce que l'on peut mobiliser à l'intérieur de lui pour qu'il change, qu'il s'adapte, qu'il reconstruise un petit peu son rétablissement. Et puis, quand on arrive aux limites de ce qui est possible de mobiliser chez lui, eh bien, il faut bien aménager l'environnement. Donc, l'environnement social, c'est pour ça qu'il y a des aides, qu'il y a l'AAH, il y a des choses comme ça. Mais dedans, il y a la famille. Donc, c'est évident que la famille, quand on regarde les statistiques, je crois que c'est 75% des patients qui ont un accompagnement très actif de la part des parents. Donc, je ne vois pas comment on ne peut pas prendre en compte les parents comme partenaires de soins.
Et vous écrivez dans votre ouvrage, lorsque nous cessons de nous focaliser sur les difficultés que les patients rencontrent et que nous parvenons à faire abstraction des troubles qu'ils présentent, nous trouvons alors des sujets d'une grande sensibilité qui ont un regard novateur sur la vie et un rapport au monde surprenant. Je vous propose d'écouter à nouveau Thomas.
Aujourd'hui, ce qui fait ma force et ma richesse, c'est de pouvoir créer grâce à des choses que j'ai découvertes sur moi, sur les autres. En fait, grâce à une perception différente, un regard autre, comme je disais, grâce à une expérience extrasensorielle aussi parfois, l'impression de toucher du doigt certaines choses.
Alors, justement, la découverte de soi pour ces personnes, c'est important, Brigitte Petit, et puis de pouvoir aussi déstigmatiser pour leur permettre d'être eux-mêmes dans leur pleine personnalité.
Mais tout à fait, tout à fait. On a, en tant que soignant aussi, à accompagner ce qu'on appelle les processus de subjectivation, c'est-à-dire de continuer, même s'il y a des notions de handicap, de déficit, ou choses comme ça, la personne va évoluer. Donc, de toute façon, il faut l'accompagner dans sa vie pour qu'elle puisse se réaliser. Donc, la déstigmatisation, à mon avis, elle passera avant tout, non pas forcément, même si c'est nécessaire d'informer le public sur l'étrangeté des gens que l'on croise, ce que c'est que la maladie, mais je pense que c'est surtout quand les professionnels porteront un autre regard sur les patients. Parce qu'ils ont un discours. Quand on regarde la schizophrénie, je crois que Wikipédia, c'est marqué maladie chronique. Je ne vois pas en quoi la schizophrénie serait une maladie chronique. Donc, on a tout un discours de faillite, de déficit, de handicap maintenant, et puis d'autant plus que le handicap psychique a été reconnu en 2005.
Exactement.
Donc, automatiquement, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas aborder ça. Mais quand on n'a qu'un discours stigmatisant comme ça, il ne faut pas s'étonner que la schizophrénie soit stigmatisée. Donc il faut que les professionnels changent leur rapport, qu'on parle un peu auprès du public de ce qu'est la personne, de sa richesse aussi. Vous parliez de cette grande sensibilité. Oui, cette sensibilité, ce sont des gens extrêmement authentiques, ce sont des gens qui sont simples, qui ne vous demandent rien. En consultation, c'est très confortable même. Les névrosés passent leur temps à tout vous demander en consultation. Aidez-moi, voilà. Les schizophrènes ne vous demandent rien. Ils prennent, tout simplement, ou ils prennent pas. Il n'y a pas d'exigence. Il y a une sorte de simplicité de lien direct qu'on a très peu dans la société. C'est d'une grande richesse pour moi.
Merci beaucoup, Brigitte Petit, d'être venue parler de ce sujet délicat de la schizophrénie. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Votre livre « Pour une approche plurielle de la schizophrénie, du soin au social » publié aux éditions Descartes est disponible à la librairie Siloé. Il propose une autre vision de la schizophrénie en prenant en compte le sujet plus que le malade. Bonne journée à tous.